le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le service protestant pour cette émission consacrée au docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, connu comme l'homme qui répare les femmes. Depuis plus de 20 ans, il prend en charge les femmes victimes de viols dans son hôpital de Panzi, au sud Kivu, en République démocratique du Congo, dans un contexte où le viol est massif, utilisé comme arme de guerre. Ces dernières années, il mène également ce combat sur la scène internationale pour faire reconnaître victimes et coupables, et pour que la barbarie cesse. Fils de pasteur, et lui-même protestant pentecôtiste, il partage avec nous sa foi, ce moteur qui lui permet de tenir et d'aimer son prochain. Fin novembre, le docteur Denis Mukwege a répondu favorablement à l'invitation de la Fédération protestante de France. Son discours à la mairie de Paris restera gravé dans l'histoire et dans les cœurs. Juste avant son discours, il nous a accordé un entretien exceptionnel en dialogue avec le pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France, que je vous propose d'écouter maintenant.
Docteur Mukwege, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui, ce dimanche matin. Et c'est un honneur pour le protestantisme et pour le pays tout entier que d'avoir ces quelques minutes d'entretien avec vous pour faire connaissance, pour avoir quelques informations aussi sur vos engagements. Et sans plus tarder, je voulais vous demander si vous avez des nouvelles de l'hôpital Panzi dans votre région du Sud Kivu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? On démarre cet entretien directement ainsi.
L'hôpital Panzi, c'est un hôpital à vocation missionnaire qui a été créé en 1999 pendant la Seconde Guerre de la RDC. Cet hôpital se voulait premièrement être un hôpital qui lutte contre la mortalité maternelle. En République démocratique du Congo, le taux de mortalité maternelle est parmi les plus élevés de la planète. Avec le Pakistan, nous sommes les deux pays à un taux de mortalité maternelle le plus élevé.
Est-ce qu'on peut expliquer la raison de ce taux de mortalité si élevé?
Ces femmes qui meurent en donnant la vie, malheureusement, c'est puisque la prise en charge obstétricale est très, très limitée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'aspect pauvreté, l'accessibilité aux soins, lorsque les soins ont un coût pour beaucoup de familles qui ont moins de $1 par jour pour vivre, lorsque les femmes sont enceintes, elles attendent à la maison et malheureusement, elles viennent à l'hôpital lorsqu'elles ont des complications. Et souvent, c'est trop tard. La troisième raison, c'est nous sommes dans un pays en conflit où la population est en mouvement permanent. Et donc, lorsque les femmes se retrouvent dans leur cachette et que le travail se déclenche, malheureusement, c'est toujours loin des infrastructures sanitaires et il n'y a pas de personnel sanitaire pour les aider. La conséquence certaine est, ou bien elles arrivent à accoucher, mais avec des lésions génitales graves qu'on appelle les fistules vésico-vaginales ou recto-vaginales, donc la communication entre les organes urinaires ou digestifs avec l'appareil génital de la femme, ou alors la mort tout simplement par une rupture utérine, un saignement non contrôlé. Et ceci est un grave problème quand on sait par exemple qu'aujourd'hui nous avons une mortalité jusqu'à 800 pour 5000 accouchements, alors que dans des pays comme la France, la Suède, cette mortalité varie plutôt et des chiffres. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté.
Docteur Mukwege, vous avez une formation de pédiatre. Et c'est petit à petit que vous avez pris conscience qu'il fallait s'occuper non pas seulement des enfants, mais des mères. Et donc vous avez fait des études après de gynécologie. Et vous êtes connu pour ce travail que vous faites. On dit de vous que vous êtes l'homme qui répare les femmes. Et alors, qu'est-ce que ça signifie? Enfin, quel est ce passage-là? Quelle est cette histoire qui vous a amené à passer de la pédiatrie à un travail beaucoup plus spécifique et d'ailleurs qui est en grande raison le motif de votre prix Nobel de la paix? Vous êtes connu pour cela.
Effectivement, j'avais 8 ans quand j'accompagnais mon père qui était pasteur, le premier pasteur pentecôtiste de la ville de Bukavu. Et donc j'aimais bien l'accompagner dans son ministère quand il allait voir les malades ou les fidèles. Et je crois, j'ai encore un souvenir ces jours-là où je le vois prier pour un enfant. Après avoir prié un enfant qui avait la fièvre, qui respirait mal. Et c'est vrai que j'étais enfant, mais je voyais une souffrance certaine que cet enfant avait. Et mon père, après avoir prié, il a dit au revoir à la famille. Pour moi, c'était un choc. Je m'étais dit, mais papa, pourquoi vous priez, vous ne donnez pas les médicaments comme vous faites pour moi? Et mon père m'avait dit, je ne suis pas médecin, j'ai prié, j'ai fait ce que je sais faire, j'ai prié. Je crois que ça fait un choc. Effectivement, à cet âge-là, je ne comprenais pas, mais j'ai dit à mon père, je serai médecin, comme ça.
C'est cet événement-là qui a été l'un des éléments déclencheurs pour votre vocation médicale.
C'était l'élément déclencheur, puisque depuis ces jours, tout ce que je faisais, c'était pour vraiment un jour devenir médecin pour soigner les enfants. Et c'est comme ça que j'ai fait mes études de médecine et ma thèse portait sur la vaccination contre l'hépatite virale B chez les nouveau-nés. Et donc, j'étais vraiment dans mon domaine. Je comptais faire la pédiatrie dans le futur. Mais après mes études, je suis allé dans un hôpital qui était géré par la mission libre suédoise. C'est une mission pentecôtiste à l'est du Congo. Je me suis retrouvé seul médecin dans un hôpital où on faisait 3000 accouchements, c'est énorme. J'étais le seul médecin, je travaillais avec des accoucheuses. Mais là, j'ai eu le premier choc, en fait, qui a changé mon orientation. Je voulais être pédiatre, mais quand j'ai vu les femmes qui mouraient pour donner la vie, c'était vraiment un choc pour moi. Et une année après, j'avais pris la décision de faire la gynécologie et l'obstétrique, qui va, en fait, ceci va m'amener en France en 1984.
Et alors, après ces études, vous retournez au Congo, et là vous découvrez une situation dramatique avec des femmes qui sont donc victimes de violences, victimes de mutilations, victimes de viols, et vous intervenez. Comment ça se passe ?
Après ma formation, effectivement, je retourne dans le même hôpital. C'est un hôpital reculé, des personnes démunies qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais j'avais compris qu'il y avait la possibilité d'organiser des soins de qualité et que les femmes puissent se présenter à temps pour obtenir des soins obstétricaux de qualité. Et ça supposait qu'il fallait construire des petits centres de santé où les sages-femmes peuvent faire des dépistages précoces et pouvoir transférer les femmes au niveau de l'hôpital général de référence. La deuxième chose, il fallait avoir un personnel pour ces centres de santé. Nous avions créé une école des sages-femmes et d'infirmières. Et cette école, donc, nous produisait le corps médical pour travailler dans ces centres. Effectivement, après quelques années, on avait observé une diminution des femmes qui venaient après avoir saigné, presque mortes. On les amenait, en fait, parfois, elles n'avaient plus la vie. Et donc, vraiment, c'était une joie pour moi de voir que, finalement, on peut faire quelque chose, on peut changer la vie des femmes. Malheureusement, 1996, il y a eu la première guerre du Congo. Et c'est pendant cette guerre-là où j'ai été très, très touché, puisque les malades que je venais d'opérer 3 jours avant ont été assassinés dans leur lit. Le corps médical qui était à la tâche à l'hôpital ont été assassinés. Et cette nouvelle m'avait perturbé. Il m'a fallu 2 ans pour me remettre de ce choc. Et c'est seulement 2 ans après que je commence l'hôpital de Panzi, qui est dans la banlieue de Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Et cet hôpital que je croyais pouvoir continuer avec ma lutte contre la mortalité maternelle et infantile, malheureusement, et c'est là où je vais m'apercevoir qu'il y a tout à fait une nouvelle pathologie dans la région, c'est des femmes qui arrivent à l'hôpital avec des blessures au niveau génital, mais pas seulement des blessures, mais plusieurs types de tortures, et racontent toute la même histoire. J'ai été violé par plusieurs personnes en présence de mon époux, de mes enfants, de la communauté. Après avoir été violé, j'ai subi des tortures au niveau de l'appareil génital. Et là, j'étais le seul gynécologue et j'ai commencé à opérer. Et donc, voilà, j'étais parti comme obstétricien. Et là, je me retrouve maintenant en train de soigner les blessures dû à la bêtise humaine, donc où le viol est utilisé tout simplement comme une arme de guerre.
Nous comprenons très bien le passage donc de cette médecine, j'allais dire traditionnelle, classique, à une médecine finalement qui s'apparente à une médecine de guerre.
Absolument.
Mais vous êtes seul à ce moment-là.
Ben à ce moment-là, je suis seul à l'hôpital. J'avais assez rapidement eu un confrère finlandais qui était chirurgien et qui est venu me prêter main forte. Et c'est vrai que, comme gynécologue, j'étais seul à l'hôpital et c'était très, très...
Quelles étaient les difficultés
difficiles,
les plus grandes de se retrouver donc seul dans l'hôpital à pouvoir agir, à pouvoir opérer? Quels étaient les plus gros problèmes devant lesquels vous étiez confronté?
D'abord, le problème, c'était le nombre de malades, puisque nous étions dans un contexte de guerre, et donc les malades affluaient à l'hôpital, et je ne pouvais pas dire non, je ne peux pas le faire, j'ai pas beaucoup assez du staff pour vous prendre en charge. Ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que c'était des femmes qui étaient complètement démunies et qui... non seulement il fallait les soigner, il fallait les habiller, il fallait prévoir leur kit d'hygiène pour leur donner une dignité au cours du traitement. Et puis, du coup, je m'étais aperçu que les opérations, je les faisais. J'étais, moi, satisfait des opérations que je faisais, mais les malades, non.
Vous employez un mot étonnant pour quelqu'un qui opère dans une situation d'urgence, c'est le mot dignité. Vous dites, vous voulez redonner une dignité aux personnes qui sont là. Et c'est un mot qui revient comme un leitmotiv dans vos propos. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus?
Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, notre tendance, c'est on soigne la maladie, mais on ne soigne pas l'homme. Et je crois qu'à Panzi, nous essayons de mettre vraiment l'homme au centre de notre prise en charge, au centre du traitement que nous faisons. Soigner la maladie, on est rapide, on ferme, peut-être on bouche un trou et puis bon voilà. Mais pour un homme, ce n'est pas seulement ça. Il y a tout ce qui est autour de le contexte de cette maladie, le contexte de cette blessure. Et donc nous allons introduire d'abord le deuxième pilier de notre prise en charge, qui est la prise en charge psychologique. Et donc ça a pris du temps avant que nous comprenions que le traitement physique ne suffisait pas. Avec le traitement psychologique, les psychologues qui travaillaient à l'hôpital, des assistantes sociales, on a très bien vu que il y avait une amélioration de la condition de vie des femmes. Les femmes avaient envie de partir, de retourner dans leur village assez rapidement, une fois qu'elles se sentaient bien physiquement et que mentalement, et elles étaient bien. Donc, leur trauma était traité. Elles voulaient retourner dans leur village. Mais la troisième question qui s'est posée, c'est que le retour au village, dans un village où elle a été violée en public, devant tout le monde, le mari la rejette, la communauté se moque du couple, etc. Il y avait un rejet communautaire. Ces femmes avaient besoin de retourner, mais elles ne savaient pas comment le faire dans une communauté où elles ne sont pas acceptées. Et là, nous avions créé notre troisième pilier, qui est un pilier de prise en charge socio-économique. Cette prise en charge socio-économique passe par la médiation familiale. Et là, je crois que le travail des églises a été remarquable, puisque au début, c'était très, très difficile.
Vous pouvez en dire un peu plus là-dessus, peut-être, sur le travail des églises aussi.
Aujourd'hui, nous travaillons avec des églises et qui nous aident non seulement à faire la médiation familiale lorsque la femme a été rejetée par le mari, pouvoir parler avec le couple pour éviter à ce que leur mariage soit détruit. Et deuxièmement, parler aussi avec les enfants pour quand ça arrive aux enfants, puisque normalement ces viols créent une destruction du tissu social où les gens ne se font plus confiance. Les pères ne sentent plus vraiment qu'il est les pères de la famille. La femme, elle a été humiliée et elle a le sentiment que tout le monde se moque d'elle, tout le monde la pointe du doigt. Et c'est très, très difficile. Et ce travail, donc, d'une réinsertion socio-économique commence toujours par une médiation familiale, une médiation communautaire, permettre à ce que la femme soit acceptée dans sa communauté. La deuxième phase, c'est donner à la femme une capacité économique. Puisque lorsque la femme est autonome sur le plan économique, elle peut être rejetée, mais le fait qu'elle est utile dans la communauté, qu'elle peut produire dans la communauté, on a constaté que ça entraînait tout simplement une acceptation, puisque c'est plutôt la communauté qui a besoin d'elle. Et moi, j'ai toujours pensé que nous parlons de la réinsertion socio-économique, mais finalement, cette réinsertion passe par vraiment l'autonomie des femmes.
Docteur Denis Mukwege, vous avez aussi porté un regard critique sur la société elle-même dans son ensemble, sur la situation de crise que traverse votre pays, et vous êtes connu aussi pour vos combats pour les droits de l'homme, contre la corruption, contre ce qui défigure au fond un pays. Est-ce que là aussi vous pouvez nous dire comment on passe finalement d'une opération chirurgicale à un engagement pour les droits de l'homme ?
En effet, lorsque les femmes sont réinsérées dans la communauté, ce que nous avions observé, c'est qu'elles deviennent fortes, elles deviennent même des leaders communautaires. Et la dernière chose qu'elles demandent, après les trois, donc la prise en charge physique, psychologique, socio-économique, elles demandent la justice. Et la justice, en fait, parfois, on focalise beaucoup sur son aspect répressif. Mais lorsque les femmes demandent justice, elles n'écrivent pas vengeance, mais elles veulent plutôt qu'elles soient reconnues, que leur statut de survivante soit reconnu par la société. Et bien sûr, éviter également la répétition de ces viols. Et la seule façon de pouvoir le faire, c'est avoir cette reconnaissance, que le bourreau puisse reconnaître qu'il a fait mal, qui est une autorité, qui a le pouvoir de trancher qui a fait quoi, puisse le dire. Et ça, c'est la justice. Et enfin, il y a la réparation. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prononcer un jugement, mais il faut aussi réparer les dommages causés chez ces personnes. Malheureusement, je crois que ces derniers aspects est toujours très, très difficile à obtenir, puisque la justice, lorsque surtout l'État est condamné in solidum avec les bourreaux, on a constaté que l'État ne respectait pas les jugements, donc faire la réparation pour les victimes. Et donc progressivement, dans ces processus de guérison, où nous intégrons l'aspect justice qui permet aussi de regagner la dignité pour les femmes. Cet aspect nous a amené progressivement à interpeller les pouvoirs publics qui doivent jouer aussi leur rôle dans ces processus de guérison. Ça, c'était la première étape.
Au début de notre entretien, vous parlez en jeu. Vous dites, j'ai fait ces études de médecine, j'ai changé d'orientation à cause de la situation, et maintenant vous parlez en nous, c'est-à-dire que vous vous êtes fait aider, vous êtes entouré d'équipes, de gens qui sont avec vous. J'allais vous demander, qu'est-ce qui vous fait tenir dans cette situation quand même particulièrement difficile et douloureuse? Vous êtes venu à Paris avec votre épouse. Aujourd'hui, on en est très très heureux. Est-ce que vous êtes avec des amis, des soutiens solides? Qu'est-ce qui vous fait tenir, docteur Mukwege?
Et mes soutiens, je crois que ils sont divers. Mais je dois dire d'abord, vous avez posé la question pourquoi j'ai dit non, puisque vous aviez compris que je suis chirurgien, mais je m'étais rendu compte que ce n'était pas suffisant. J'ai eu besoin des psychologues, après j'ai eu besoin des économistes et puis les juristes. Et ça forme une équipe pour pouvoir avoir un résultat à la fin. Mais c'est vrai que le travail que nous faisons est très très dur, difficile à vivre. Je me rappelle quand j'ai opéré pour la première fois un bébé de 18 mois, c'était très très difficile. Mon épouse n'a pas arrêté à me poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous ne mangez pas? Est-ce que vous êtes malade? Et j'avais du mal à pouvoir expliquer à mon épouse ce qui s'est passé. Et là, effectivement, sans le soutien familial, mon épouse, mes enfants, me soutenir dans ce que je fais, je crois que je n'y arriverai jamais. Nous avions été victimes d'un attentat, mes filles, et qui s'est passé chez moi. Mon ami avait été tué dans ma maison devant mes enfants. C'était très, très difficile. Et donc, j'avais même décidé de quitter le pays et partir en exil. Je l'avais fait. Mais grâce au soutien d'abord de ma famille, mais également des femmes que je soigne. Et ça, c'est très important. J'étais déjà à Boston avec toute ma famille, mais les femmes que je soigne à Bukavu ont décidé d'écrire au secrétaire général des Nations Unies pour que je revienne et qu'ils me donnent la sécurité pour me protéger. Elles n'ont pas eu de réponse. Elles ont écrit au président de la République pour demander que je revienne et que je sois sécurisé. Elles n'ont pas eu de réponse. Ces femmes qui n'ont pas un dollar par jour pour vivre ont commencé à vendre des tomates, des fruits, des légumes pour me payer un billet retour et ma famille. Et chaque vendredi, elles venaient à l'hôpital avec leurs fruits et légumes et déposaient $50 pour payer mon ticket retour. Et elles ont envoyé un message avec un collègue pasteur, Jean Lebel, pour me dire, voilà, dites au docteur qu'ils reviennent. Nous, les femmes, nous allons nous organiser pour le protéger. On aura chaque jour, 24 sur 24, 25 femmes autour de sa maison et nous l'assurons qu'avant que quelqu'un l'atteigne, il aura déjà marché sur 25 femmes. Je crois que devant un soutien de ce type, on n'a aucune raison. Je me suis senti d'abord très petit. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était dire, oui, je reviens. Et donc, mon exil a duré seulement 3 mois. Quand j'étais complètement découragé, j'ai eu ce soutien des femmes que je trouve, les femmes ont un courage exceptionnel. Hier, j'étais à Vicennes, à un hôpital parisien. Et il y a des collègues avec lesquels je travaille depuis un certain nombre d'années, qui ont ouvert aussi un service pour les victimes de violences sexuelles à l'hôpital d'Avicenne. Et ces femmes ont fait un témoignage. Tout le monde était en larmes. Parce que ce sont des femmes qui ont souffert, qui ont eu des blessures, des brûlures, des choses indescriptibles. Mais toutes les 5 qui ont témoigné, quand on leur posait la question, qu'est-ce que vous allez faire après? Toutes, il n'y a pas une seule qui a dit, voilà, je vais faire ça pour moi. Mais tout disait, je voulais faire pour les autres, pour les enfants, pour mes enfants, pour la communauté. Et je pense que c'est ça la force des femmes qui, moi, en fait, m'entretient, me pousse. Travailler avec les femmes, ça vous donne une force exceptionnelle. Et enfin, ma foi. Ma foi, elle est très, très importante, puisque je crois dans une chose. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Pour moi, ça, c'est très fort. Juste tous les jours penser que j'ai une... La seule chose que je peux faire, c'est aujourd'hui sourire à quelqu'un. Au moins sourire à une personne. Donner la joie à une personne. Donner cet amour à quelqu'un qui est dans la souffrance, qui attend tout simplement un mot de votre part.
Docteur Mukwege, qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs pour qu'ils entendent votre message et de sorte qu'ils puissent aussi vous aider à leur tour? Ou qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, pour vous aider dans votre combat?
Le message que je voulais donner aujourd'hui, c'est devant l'humanité qui souffre, ne soyons pas indifférents. Regardons autour de nous. Il y a toujours une personne qui a besoin de notre sourire, qui a besoin que nous puissions lui tendre la main. Et ça, ce sont des choses que nous pouvons faire quotidiennement pour rendre notre monde meilleur.
C'est avec un grand plaisir et en même temps beaucoup de reconnaissance que je voulais vous remercier de nous avoir accordé ce moment, cet entretien. J'espère que chacun aura entendu, reçu, pris au vol tel ou tel mot, telle ou telle phrase. J'en retiens deux ou trois, le mot de dignité, le mot de soutien, le mot de sourire, et puis ce mot qui a résonné à nos oreilles sans doute dans cette émission, le mot de foi. Voilà, merci beaucoup docteur Mukwege pour votre présence parmi nous aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie, pasteur.
Ainsi s'achève le service protestant sur cet entretien exceptionnel entre le docteur Denis Mukwege et le pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France. Nous exprimons encore toute notre reconnaissance pour cette rencontre et portons en pensée, en action et en prière le docteur Mukwege et ses équipes. Cette émission a été présentée par Benjamin Bories et réalisée par Delphine Lemaire. Merci à Yann Frécy pour la prise de son. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestantaupluriel.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant Service Protestant. Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivi à 9h10 de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Bonne journée à vous sur France Culture.